Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio de la Paix pour ce nouveau numéro de Regard croisé sur l'actualité, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Une semaine d'actualité qui nous amènera à évoquer l'annonce faite par le président du Front populaire ivoirien relativement à une alliance entre son parti et le RHDP. Nos invités se prononceront également sur les propos du président du PDCI-RDA évoquant les défections au sein de sa formation politique et des alliances électorales probables. Nous allons aussi parler du procès en appel des partisans de Guillaume Soro qui se tient en ce moment même. Et puis nous évoquerons par ailleurs la nouvelle hausse du prix du super sans-plomb survenu depuis le 1er février dernier. Et en fin d'émission, nos invités diront un mot sur le rapport 2022 de Transparency International où la Côte d'Ivoire gagne 6 places et améliore son score. Et si le temps nous le permet, ils feront de même sur l'avènement du permis à points. Pour donc croquer toute cette actualité, nous recevons Jean-Marie Kwasi Aoussou, plus connu sous la plume de JMK Aoussou. Il est le directeur général et directeur de publication du quotidien Dernière Heure Monde, également membre de la cellule de communication du PDCI-RDA. Et à ses côtés, Guillaume Gbato, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, chargé de la communication et du marketing politique. Il est également directeur des rédactions du quotidien Notre Voix. Chers confrères, bonjour.
Bonjour, Souman.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pascal Afingessan a annoncé vouloir conclure très prochainement une alliance avec le RHDP. Le président du FPI a critiqué au passage une opposition politique qui continue d'errer. Commentant cette sortie, Dr Flamoke César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, estime qu'il ne faut pas s'en émouvoir eu égard à l'histoire des alliances politiques en Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter au micro de Constant Maïlé.
Je regarde ces différentes formes de collaboration comme étant un jeu de tactique. Donc il s'agit d'un jeu de tactique pour mieux se repositionner et atteindre des objectifs précis. Ces objectifs-là peuvent être de type électoral. Et c'est tout à fait normal.
Justement, parce qu'on parle d'élections locales.
Oui. Donc ici, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une tactique qui prend en compte le contexte des élections locales et régionales à venir. Je pense que pour la petite culture que j'ai du système politique ivoirien, cela ne devrait pas, bien entendu, émouvoir outre mesure, parce que les alliances se font, se défont selon la vision des uns et des autres et des objectifs poursuivis.
JMK Aoussou, le président du FPI, Pascal Afingessan, a justifié son annonce en évoquant, je le cite, une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti. Fin de citation. Alors pour vous, c'est de la réelle politique, c'est de la survie politique. Bref, quel est votre avis sur cette annonce du président du FPI ?
Je n'ai pas d'avis émotionnel ou émotif à émettre. Pascal Afingessan est un animal politique. Donc il sait très bien, à un instant T, ce qu'il est bon de faire pour faire évoluer sa machine. Il est à la tête d'une machine politique qu'on appelle le FPI. Il lui faut faire évoluer le FPI d'une façon ou d'une autre. Et en pareille contingence, les alliances sont aussi une manière de faire évoluer la machine politique. Donc, le président Afingessan lance l'idée d'une alliance. Moi, je retiens que c'est un tacticien, donc ça doit être une alliance tactique, parce que c'est pas une alliance idéologique de fond. Qu'est-ce qu'un parti de gauche, incarné par un homme de gauche comme Afingessan, a allé faire en compagnonnage avec un parti de droite ou si on veut des centres libérales comme le RHDP? Ce n'est que tactique et vous voyez très bien que les élections locales à venir sont là. Afi dessine ses alliances, il pousse ses pions, il sortira peut-être de là avec une vingtaine, une trentaine de mairies. C'est ce qui, au décompte final, va compter pour le parti. Ça ne sert à rien d'avoir un parti qui flagorne alors que sur le terrain, vous avez du mal à avoir des élus. Donc je vois ça dans le sens d'une alliance tactique, circonstancielle, qui peut peut-être se prolonger, mais pour le moment, n'oubliez pas qu'on a affaire à un véritable animal politique.
Voilà. Alors Guillaume Gbato, cette alliance semblait déjà dans les tuyaux. Pourquoi est-ce qu'au-delà ou en dépit de toute considération idéologique, comme l'affirmait JMK tout à l'heure, vous êtes favorable à cette alliance avec le RHDP?
Oui, parce que tout n'est pas idéologique. Malgré nos différentes idéologies, nos différentes façons de voir le monde, nous vivons dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui a des réalités. Et aujourd'hui, au-delà même de l'aspect électoral, qui n'est pas à négliger, mais au-delà de ça, il s'agit de créer les conditions de la réconciliation nationale. Il s'agit de travailler ensemble à faire face à tous les défis qui sont les défis de notre pays aujourd'hui, défis sécuritaires, défis de stabilité politique, défis économiques. Ça, n'oubliez pas que malgré les efforts du gouvernement et du chef d'État, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes dans un contexte économique particulièrement éprouvant depuis la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc aujourd'hui, il s'agit de, pour nous, en tout cas au niveau du Fonds populaire ivoirien, d'apporter notre expérience. N'oubliez pas quand même que le FPI a beaucoup de cadres de haut niveau. Le président a fait lui-même en aide. Hein. Il a été élu local. Il est encore même aujourd'hui élu local. Il a été maire dès 1990, à 37 ans. Il est devenu maire de la commune de Bongouanou. Il a été ministre, premier ministre, député, président du conseil régional. Il a une longue expérience qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Et avec lui, beaucoup de cadres qui ont aussi beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, il s'agit surtout de créer des conditions du rassemblement des Ivoiriens. Comme le président lui-même l'a dit, de dépasser nos intermittences antérieures et donner un espoir à nos populations quant à ce que la classe politique peut se tourner réellement vers les vrais enjeux, c'est-à-dire le développement, le bien-être des populations, et laisser de côté les questions d'ego, d'orgueil et parfois des intérêts personnels qui ont fait parfois beaucoup de mal à notre pays.
Mmh. Alors, quand vous parlez de... en disant que tout n'est pas idéologique, le président du FPI, Pascal Afingessa, a parlé d'alliance à la fois électorale et de gouvernement. Comment est-ce qu'on peut gouverner en étant de gauche avec un parti libéral?
Mais je veux dire qu'en la matière, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si je prends le cas ivoirien, le président Afi lui-même, quand il était Premier ministre, entre 2000 et 2003, a eu des ministres issus du RDR dans son gouvernement. C'était le gouvernement du 5 août 2002. Mais en plus du RDR, le président Afi avait des ministres PDCI dans son gouvernement.
C'était un gouvernement de crise?
Non, pas du tout. À la suite de l'élection du président Gbagbo en octobre 2000, le premier gouvernement Afi Nguessan comportait 7 ministres PDCI, dont l'actuel premier ministre Achi Patrick, le ministre Kokotri, Madame Asana Sangari. Il y avait beaucoup de cadres PDCI qui étaient déjà dans le gouvernement Gbagbo. Mais par la suite, avant même la crise, en 2002, j'ai dit le 5 août 2002, c'est-à-dire deux semaines avant le coup d'État manqué de 19 septembre, le RD était rentré au gouvernement avec 5 ministres, dont le ministre Zemogo Fofana. Donc, ce n'est pas nouveau pour ce qui concerne le FPI et le RDR. Mais même ces deux partis politiques, dès 1994, avec la sortie des cadres du RDR, du PDCI, mais il y a eu ce qu'on appelle le Fonds républicain, ici, en Côte d'Ivoire, qui a mis ensemble le RDR, qui est aujourd'hui l'ancêtre, qui était l'ancêtre du RHDP, et le FPI, ensemble. Mais avant ça, le président Bédié, quand il a pris le pouvoir en 1993, dans son premier gouvernement, il y avait un certain Zadi Zaourou, père à son âme, ministre de la Culture de l'USD de gauche. Par la suite, le même président Bédié avait dans son gouvernement M. Francis Vaudier, PIT. Donc, si on prend le cas ivoirien, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, sortons de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez, je vais prendre deux exemples factuels. Le cas allemand, l'actuel chancelier Olaf Scholz a été pendant deux mandats vice-chancelier et ministre de l'économie et des finances de Mme Merkel, qui était de droite, de la CDU. Et aujourd'hui, lui-même, Olaf Scholz, dirige une coalition qu'on appelle la coalition jaune-vert-rouge, avec des verts, le SPD étant un parti social-démocrate, et les libéraux qui sont dans son propre gouvernement. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais mieux, vous avez nos camarades danois qui ont gagné les élections en 2021, malgré leur majorité, ont accepté de se mettre avec les gens du centre et de la droite pour créer une grande coalition. En Allemagne, généralement, quand il y a des difficultés, on appelle ça la grande coalition qui met ensemble le SPD et la CDU pour travailler dans l'intérêt de leur pays. Donc, vraiment, en la matière, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Europe, y a le cas français. Aujourd'hui, M. Macron, qui est venu de la gauche et qui a pris le pouvoir, il a eu pendant 5 ans un premier ministre de droite, comment ça s'appelle Édouard Philippe. Et aujourd'hui, Mme Elisabeth Borne, qui est première ministre, elle est plutôt issue de la gauche. Mais ça n'empêche pas M. Macron de développer son programme. Donc, la question de gauche et de droite, oui, c'est la façon de voir le monde, mais ça n'empêche pas que des citoyens qui appartiennent d'abord à un pays, face à un certain nombre d'enjeux, se mettent ensemble. Parce que même si vous êtes de droite ou de gauche, mais vous serez obligé de faire des ponts, mm-hmm. vous serez obligé de faire des routes, vous serez obligé de faire des hôpitaux. Et en la matière même, je le dis souvent, ça pas parce que nous allons faire l'alliance avec le président Ouattara, mais le président Ouattara, le programme qu'il applique aujourd'hui, mais c'est plus qu'un problème de gauche. Quand vous voyez l'augmentation du SMIC, qui est passée de 36 000 francs aujourd'hui à 75 000 francs, quand vous voyez le déblocage des salaires des fonctionnaires, jusqu'à payer même le 13e mois aux fonctionnaires, ce sont des vraies mesures de gauche. Je suis désolé. Quand vous voyez l'électrification pour tous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, mais c'est un programme de gauche. Donc, nous, ça ne nous gêne pas. C'est vrai que nous avons des désaccords sur ce genre de sujet, et c'est pour ça que nous allons mettre ensemble pour que les questions sociales soient plus amplifiées, pour que les questions de la décentralisation, par exemple, nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire sur ces questions-là. Donc, nous allons apporter notre spécificité de gauche à ce gouvernement, que moi, mais j'allais dire, qui était un gouvernement du centre-gauche quasiment, parce que le programme qu'applique le président Ouattara aujourd'hui, quand vous voyez la couverture maladie universelle, quand vous voyez tout ce qui est fait en matière sociale, le PS Gouv, c'est un vrai programme de gauche.
Mm-hmm. J'aime Kaoussou. Alors, Pascal Afinguessa a appelé à dépasser les antagonismes du passé, mais on sait qu'en tant que porte-parole du CNT en 2020, il y a eu des propos très durs à l'endroit du président Ouattara, il y a eu des propos très forts. Est-ce qu'on peut effacer tout ça? Est-ce que en tenant aujourd'hui une annonce d'alliance avec le RHDP, on ne brouille pas un peu la grille de lecture que les militants peuvent avoir, qui ne sont pas aussi intellectuels pour lire et voir les choses comme vous?
Franchement, ce que moi je peux dire, c'est que une alliance est toujours conjoncturelle. L'épisode du CNT était une conjoncture. Cette conjoncture est passée. Aujourd'hui, Afinguessa veut tracer un chemin. Il se trace un chemin avec le RHDP. On verra ce que ça donnera. Le PDCI a fait route.
Est-ce qu'il n'a pas été un peu contraint par posture de Bédier vis-à-vis de lui et après de Gbagbo quand il est rentré d'exil?
Non, je ne pense pas. Afinguessa, je vous le dis, c'est un animal politique. Si vous le minimisez trop, il va toujours vous surprendre. Bon, si vous le surestimez trop, parfois vous lui donnerez peut-être plus de contenance qu'il n'en faut, mais c'est un animal politique. Et n'oubliez pas, il a été Premier ministre de ce pays. Il n'est pas Premier ministre qui veut. Ce n'est pas pour lui lancer des fleurs, mais Afinguessa est à la tête d'un parti politique. Et un parti politique, c'est d'abord et avant tout un objectif à atteindre. Et je pense que ce qu'il fait en ce moment rentre dans le cadre des objectifs qui se sont assignés, que peut-être publiquement ils ne diront pas, mais ça rentre parfaitement là-dedans. Maintenant, la politique, pour revenir à votre question, s'embarrasse très peu des émotions. Si vous voulez regarder ce que lui a dit, moi il a dit, toi il a dit, vous ne vous en sortirez pas. Donc, Afi a dépassé les contingences de 2020, et il est dans les contingences de 2023. Il y a les élections, il y a, dit-on, un gouvernement qui est en train de se façonner, dans lequel tout le monde doit rentrer. Bon, il faut bien qu'il occupe quelque chose là-bas. Donc, il ne faut pas trop en vouloir à Afinguessa, il ne faut pas trop lui jeter la pierre, parce que dans ce pays des alliances, il y en a eu. Hein. Depuis que le président Faubagné a appuyé sur le bouton de l'article 7 de la Constitution pour ramener le multipartisme, de la grande coordination de la gauche de 1990 au CNT récent, Dieu seul sait combien d'alliances il y a eu dans ce pays et Dieu seul sait où les alliances ont mené ce pays. Donc c'est une haute alliance. Qu'est-ce qui vous dit qu'ici jusqu'au 8 février, Bédié, Gbagbo et Ouattara, qui sont censés se retrouver à Yamoussoukro pour rendre hommage à Oufoué, ne se retrouveront pas pour parler de quelque chose qui va devenir aussi une autre alliance? On n'en sait rien. Ce pays-là, chaque jour, pour parler comme quelqu'un, chaque jour qu'on s'élève, il y a un nouveau buzz à nous de nous adapter et d'avancer.
Bien, évoquons à présent, si vous le voulez bien, la situation au PDCI-RDA. Son président s'est prononcé sur les récents départs de militants de son parti, la préparation des prochaines élections locales, ainsi que les alliances qui pourraient en être probablement. C'était à Daoukro, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an des militants du PDCI à leur président. On écoute donc un extrait des propos d'Henri Conan Bédier.
Les détections auxquelles nous assistons ces derniers temps ne sauraient nous ébranler. Nous devons retrousser nos manches et nous mettre au travail en allant au contact de nos populations, en leur exprimant notre soutien, notre compréhension de leurs problèmes, de leurs attentes, en les rassurant de notre vision d'être le parti qui défendra leurs intérêts et qui leur assurera le meilleur lendemain. La prochaine élection locale, la sélection de nos candidats se fera selon des critères prédéfinis qui tiennent compte des attentes de notre base, de notre désir de conserver nos acquis et de notre ambition de conquérir de nouvelles mairies et régions. Toute alliance, tout rapprochement, si alliance et rapprochement il y a, ne pourra se faire que dans l'intérêt de notre parti et de celui de la Côte d'Ivoire. Et ceci ne doit être vu que dans le seul objectif de renforcer notre position et de reconquérir de nouveaux territoires.
Alors, des cadres et non des moindres, pour ne citer que Ndoye Apiraimon, Basile Gualidodo, Pierre Magne, ont quitté le parti septuagénaire pour rejoindre le RHDP. Est-ce que le PDC est en danger? Est-ce qu'on doit craindre ces désistements de ces hauts cadres? Jim Kaoussou.
Bon, là je vais parler escalité. Je pense que si le PDCI a résisté à la grosse saignée de 2018, où la quasi-totalité de ses ministres a démissionné, où ses responsables dans les institutions ont démissionné, où des vice-présidents, et non des moindres, sont partis. Ce n'est pas ces petits saignées de 2022-2023 qui vont les branler. Non. Et quand on parle de l'intérieur, on ne minimise pas. On cherche à dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas, on va stopper, mais c'est pas ça qui peut mettre le PDCI en danger. Ce qui peut mettre le PDCI en danger, c'est l'inertie du parti. Et c'est pour cela que le président Bédié, dans son discours de nouvel an aux militants, a tapé du poing sur la table. Vous avez vu que la tonalité était forte. Parce qu'il y a comme des scléroses qui commencent à apparaître, dû au fait que parfois les querelles internes prennent le pas, prennent le dessus. Mais les saignées, c'est tous les jours que le PDCI est en vente aux enchères. C'est tous les jours que le RHDP est en train de débaucher des cadres au PDCI. C'est vraiment... Il n'y a rien de nouveau. C'est le jour où le RHDP peut-être même va débaucher le président Bédié. C'est là on va se dire que ça y est. Mais tous les cadres font l'objet de pressions. Si aujourd'hui le PDCI même tarde à sortir la liste de ses candidats, mais c'est à cause de cela. Tous nos responsables qui sont dans les régies financières, qui sont des hauts fonctionnaires de l'État, qui aspirent à être candidats, mais les pressions même se font déjà dans leur propre ministère. Je prends le cas symptomatique de Dimbo Koro, où le ministre de l'économie et des finances est candidat, et en face à lui, il a un de ses inspecteurs du ministère qui est candidat, qui lui a le terrain. Mais je vous épargne les pressions dont ce cadre-là est victime jusqu'à ce jour. Donc, il y a tout ça. Maintenant, ce qui est bien, c'est que OPDCI déjà s'appelait, parce que tous les problèmes que nous avons sont démultipliés. Est-ce parce qu'on nous aime trop? Est-ce parce qu'on veut tuer le parti? Bon, on regarde ça avec beaucoup de... Voilà.
Guillaume Gbatto, JMK semble minimiser un peu la saignée. Mais je veux dire, de 2018 à aujourd'hui, c'est la saignée continue.
Vous ne voulez pas que JMK se mette à pleurer à votre micro? Donc c'est tout à fait normal qui...
Le PDC ne pleure là jamais.
Donc c'est clair, c'est tout à fait logique que JMK tente de minimiser. Mais il est clair que même si le PDCI n'est pas en danger, ou bien ne semble pas en danger, pour ne pas produire votre terme, mais il y a de quoi s'inquiéter. Parce que j'aime qu'elle a dit quand même, depuis 2018, la tendance est plutôt à la défection. Et quand il parle même des querelles internes, mais ces querelles sont motivées par le fait que il n'y a pas de visibilité. Tout le monde dit, faisons confiance au président Bédié. Mais la vérité, c'est que le président Bédié, il est fatigué. Il faut le reconnaître.
Fatigué comment?
Le président Bédié a 89 ans aujourd'hui. Et en 2025, il aura 91 ans. Est-ce que le président Bédié, honnêtement, sincèrement, les cadres du PDCI pensent que le président Bédié peut faire campagne et gagner les élections? Bon, c'est une grande question. Les querelles aussi sont la conséquence d'une espèce de vide. Il a dit, par exemple, parler de sclérose. Mais on le dit toujours, le poisson pourrit par la tête. Le président Bédié aujourd'hui ne peut plus, n'a plus les moyens physiques de faire une tournée dans l'ensemble du pays, d'aller visiter les cadres. Il le faisait par le passé, mais il ne peut plus le faire parce qu'il est âgé. Donc, En même temps que il rassure pour certains, il est la figure tutélaire et tout ça, mais beaucoup de cadres se rendent compte que c'est compliqué. Il y a une sorte de bataille de succession qui s'engage, parce que tout le monde est conscient que à 89 ans, on est plus proche de la sortie que de l'entrée. Donc tout ça, ça joue. Or, vous savez que les cadres, quand ils s'investissent dans les partis politiques, ils espèrent capitaliser à moyen et long, bon, j'allais dire à court et moyen terme. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, la réalité, quand JMK dit, par exemple à Dimboko, un inspecteur a face à lui son ministre, il sait très bien qu'il n'est pas perdant. Le simple fait que ce soit son supérieur hiérarchique, c'est déjà un problème.
Mais là, on est sur le terrain politique.
Ah oui, mais je veux dire que le terrain politique tient compte de la réalité. Donc, les difficultés actuelles du PDCI, vous comprenez, le directeur de cabinet du président Bédié est parti. C'est quand même important.
Non, pas son directeur de cabinet, son ancien directeur de cabinet.
Il était directeur de cabinet.
Voilà.
Bon, et pendant de longues années. Donc, on ne peut pas dire que ce serait rien. Mon grand frère, Basile Gualidodo, que j'appelais le micro de Bédié, est parti. C'est pas rien. C'est des gens, ils auraient pu vous couper la tête pour le président Bédié. Donc, tous ces mouvements qui se font, et je suis sûr qu'on en aura d'autres avant. Parce que JMK dit, bon, c'est pour ça qu'on tarde à publier la liste des candidatures. Mais ils seront bien obligés de publier la liste. Non. Et forcément, ça va créer des discussions. Et il y a à craindre que d'autres personnes s'en aillent. Donc, de cette façon, je crois que, heureusement qu'ils ont annoncé un congrès pour mars, je crois que le PDCI doit prendre sa responsabilité. Dis gentiment merci au président Bédié qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Je le dis.
Là, bateau, tu vas sur un terrain glissant.
Oui, mais le président Bédié est en politique depuis au moins 60 ans.
Oui, absolument. Là,
le président Bédié est rentré au gouvernement pour la première fois en 1964. Il avait 32 ans.
Non, 36 ans.
Il est de 34. En 66, il a 32 ans. Il est de 34. En 66, il a 32 ans.
C'est ça. Okay. Il a 32 ans, oui, 32 ans.
Depuis 32 ans, il est au gouvernement. Bon, écoutez, il en a 89. C'est compliqué. Donc, tant qu'il n'y a pas un vrai débat sur la relève au PDC-RDA, sur la capacité à tourner la page et à garder le président Bédié vraiment comme un grand conseiller, je crains que les défections se poursuivent.
Justement, JMK, ce que Guillaume Bato dit n'est pas dénué de tout fondement. Mmh. Ceux qui ont quitté le navire PDCI, en justifiant leur départ, ont évoqué la question de visibilité au sein de ce parti.
Non, il n'y a personne qui a un plan de visibilité.
La succession du président Bédié.
Non, c'est des justificatifs. Laissons tomber les justificatifs. Vous savez, moi, je ne m'étale pas sur les partants. Pour la simple bonne raison que chacun d'entre nous, à son niveau, a été courtisé. Et il a donné la réponse qu'il veut. C'est ça que le président Bédié a dit à la croisée des chemins. Chacun choisit la direction qu'il pense en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il aspire. Donc ceux qui sont partis savent pourquoi ils sont partis. Moi, je retiens Dendoï Apiremo qui dit qu'il est parti parce qu'il voulait voir le président Bédié. On l'en a empêché. C'est ce que moi, je retiens. Il a voulu voir le président Bédié, on l'en a empêché. Sur Live TV, Gualidodo dit qu'il a voulu voir le président, on l'en a empêché. Mais j'espère que là où ils sont partis, ils verront le président Ouattara tous les jours. C'est une façon de parler. Même Guillaume Bato, qui est assis à côté de moi, qui est membre de la direction de son parti comme moi, demandez-lui s'il voit le président Finguessant tous les jours. Qu'on arrête un peu les justificatifs. Tu veux partir, tu vas. Tu n'as pas besoin de te justifier. Je vous dis qu'il y a un grand cadre du PDC qui est parti au RIDP sans avoir fait des déclarations. C'est dans les activités que nous on a su qu'il était au RHDP.
C'est qui?
Je ne dirai pas son nom. C'est dans les activités qu'on a su qu'il est au RHDP. Un grand cas du PDCI. Quand vous allez chercher, vous verrez. Il est parti à la DP sans déclaration, sans tapage, ni rien.
Narcisse
n'a même pas fait de déclaration pour dire qu'il va au RHDP. Revenons au problème de Narcisse. Narcisse va à une cérémonie à Toumoudi où il énonce les dons de tous les responsables de la région qui ont participé à cette fête-là sans être présents. Lui, en tant que président de la cérémonie et qui était présent, c'est lui qui annonce ces dons-là. Il a annoncé au moins 10 dons. Il s'est trouvé un petit malin pour prendre dans le film la partie où il annonce les dons du président Oussou Janneau, de le balancer sur Internet pour dire que bon, il annonce les dons de Janneau, ça veut dire que Narcisse est parti.
Donc tu veux dire que Narcisse est toujours PDCI?
Est-ce que tu as une déclaration publique de Nassis où il te dit qu'il
n'a pas démenti aussi? Il n'y a pas de démenti.
Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui dément. Ce n'est pas tout le monde
c'est
qui
quand
dément.
Ça crée aussi la confusion.
C'est quand même...
Oui, non, mais écoutez, tout le monde n'a pas la même culture politique. Quand on a accusé le secrétaire exécutif, le projet Gikawe, il a venu démentir. C'est une culture politique qu'il a. Ce n'est pas tout le monde qui a cette culture politique.
Non, mais au moins, ça l'a...
Je vous préviens et je vous précise qu'au PDCI, nous avons une liste de 24 noms. Ceux qui ont dit qu'ils sont partants, 24, moi, je la liste. Puisque c'est moi qui en ai parlé. Mais de ces 24, on n'en a même pas plus de 2 qui sont partis. Parce que Pierre Magne n'était pas sur cette liste. Je vous rappelle que Pierre Magne n'est plus au PDCI depuis 2018. Quand il a perdu les élections municipales à Assini, Pierre Magne n'est plus revenu au PDCI RDA. Donc quand il dit qu'il s'en rend du PDCI, bon franchement, on se demande de quel PDCI il parle. La vérité, c'est qu'on a une liste. Il n'y a que 2 qui sont partis. On attend les 22 autres.
Alors, Guillaume Kaoussou, dans un tel contexte, le congrès a été annoncé pour le mois de mars?
Non, le congrès a été reporté. C'était pour le mois de décembre. Le président Bédié l'a reporté au mois de mars.
Oui.
C'est tout.
Donc, ce congrès, ça va être crucial pour le
parti? Non, ce n'est pas crucial.
Est-ce que pour un congrès qui a été déjà reporté...
Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Le congrès extraordinaire a été convoqué par le président Bédié pour régler un problème statutaire. Et maintenant, il a dit, bon, en plus du problème statutaire, on va régler le problème de l'élection. Parce que, en vérité, le président Bédié a un pouvoir qui est reconduit depuis le congrès extraordinaire de 2018. Donc, il a dit, on va régler tout ça à ce congrès extraordinaire, quitte à aller maintenant faire toutes les mises en conformité au congrès ordinaire. Le congrès avait été prévu pour décembre. Il s'est trouvé des cadres qui sont allés convaincre le président Bédié de ce que la CEI, ayant trouvé l'inspiration de reporter à des 10 jours l'opération d'enrôlement et autres, il était question de permettre aux cadres d'aller sur le terrain, aller mobiliser les troupes pour pouvoir aller se faire enrôler sur les listes électorales. Voilà ce qui a convaincu le président. Il dit, bon, tant qu'en faire, on va reporter. Et on avait même prévu ça pour janvier. Et finalement, le président dit, on le fait en mars. Le congrès dure une journée, sinon moins d'une journée. Mm-hmm. Bon, on est d'accord que ce n'est pas en 4-5 heures de temps qu'on règle les problèmes cruciaux d'un parti politique à un congrès extraordinaire. Non. Maintenant, on veut donner à ce congrès une contenance ou des allures que ce congrès n'a pas. Voilà, c'est comme quand Bato a dit tout à l'heure, il faut qu'on dise au revoir au président. Mais le président lui-même, il n'a pas dit qu'il veut rester. Le président Bédié n'a pas dit à quelqu'un qu'il est candidat en 2025.
Oui, mais il a ses partisans qui annoncent déjà
sa
candidature, qui veulent être candidat pour le compte du parti. On pense à Billon, on pense à Thiago.
Oui, mais aujourd'hui, là, nous ne sommes partisans de la candidature de Billon. Nous sommes partisans de la candidature de Tidiane Thiam. Moi-même qui vous parle, je suis partisan par exemple de la candidature d'un monsieur qu'on appelle Gikawe. On les pousse tous dans le dos. Pourquoi? Parce que ça va donner de l'animation au parti. Le président Bédié est à un niveau où il ne peut pas tout faire. Mais il n'y a qu'aujourd'hui Billon qui véritablement se démène. Vous voyez les autres où? Voilà. Moi, si on a 10 candidatures, la convention va être plus intéressante. Moi-même qui vous parle, je serai plus dragué. On aura plus d'entrée. Mais pour le moment, il n'y a que le président Bédié. Je vous précise que pour le congrès extraordinaire, le dernier jour, à 18h, à la date limite de dépôt de candidature, il n'y avait que la candidature du président Bédié. Tous ceux qui ont parlé, personne n'a osé aller déposer sa candidature. Bon, faisons attention.
Mm-hmm. Oui, mais JMK, bon, moi je veux bien, mais je l'ai dit que c'est un peu facile. Tout le monde voit bien que le président Bédié, quand ses amis ou ses suiveurs, comme il aime le dire...
Ses partisans.
Il a dit qu'il n'a pas d'amis.
Il y a longtemps,
oui,
en 1999.
Oui, mais bon, et après, il n'a pas changé. Donc, il a même écrit dans un livre.
Allons-y, Guillaume, allons-y sur l'idée.
Non, Guillaume, je ne suis pas d'accord.
Non, mais c'est pas moi.
Non, on va pas refaire l'histoire.
Oui, mais on va pas me reprocher.
Oui.
Ce que le président a dit et écrit dans un livre.
Moi, je ne veux pas que tu perdes le fil de ton...
Non, je ne vais pas perdre le fil, t'inquiète. Oui, voilà. Donc, je disais que quand les amis du président Bédié, hein, pour faire plaisir à JMK, c'est quand ses amis lui disent d'être candidat et que lui ne dit rien. Mais c'est normal qu'un monsieur comme Billon ou comme Gikawe, comme il a dit, s'il avait des ambitions, c'est normal qu'il ait peur. Parce qu'on connaît la machine du PDCI. Quiconque ose affronter Bédié, il passe à la trappe. Donc, ces gens n'ont pas envie. Il y a même un qui a eu l'idée, bon, je ne vais pas la qualifier, de dire qu'il faut que le président Bédié soit président à vie. Mm-hmm. Et le président Bédié n'a rien dit. Donc, il veut bien avoir des candidats, mais ceux-là, ils ne peuvent pas s'engager. S'ils sont quand même à l'intérieur de l'appareil. S'ils ont une conviction que le président Bédé, il tient encore. Parce que c'est le compagnon du président Bédé depuis de longues dates. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir d'autres candidatures. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, il lui met la cité.
Il faut que le président Bédié le dise clairement. Je ne suis candidat à rien du tout.
Et j'encourage.
Ça va libérer.
Voilà. J'encourage. Moi, je ne suis pas candidat pour ce congrès. Je pense qu'à mon âge, je peux être utile au PDCI en étant en arrière-plan. J'encourage tous ceux qui veulent travailler pour notre parti à faire acte de candidature pour qu'on puisse les choisir au congrès extraordinaire. J'aime quand il dit qu'on veut donner à ce congrès une envergure qu'il n'a pas. Non, c'est le contexte qui donne à ce congrès une envergure importante. Nous sommes à 2 ans d'élection présidentielle. Nous sommes à 2 ans. En Côte d'Ivoire, pour le moment, chacun sait plus ou moins qui sera candidat. En dehors peut-être du président Gbagbo, dont on ne sait pas si sa condamnation va être levée ou pas. Charles Blé Goudé, qui est aussi sous condamnation. Et le président Ouattara, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais ailleurs, on sait que Thiam a envie d'aller être candidat. Billon a envie, etc. Mais cela ne peut pas se mettre en mouvement tant que le président Bédié ne dit rien. Or, s'il ne dit rien et qu'il est reconduit à toute partie en 2023 et qu'il faut attendre la convention qui va avoir lieu peut-être dans le dernier semestre 2025, mais on ne peut pas avoir une élection présidentielle en 6 mois. Je suis désolé. Donc, visiblement, les cadres qui quittent le parti, ils se rendent compte que la stratégie tel cas dont le président Bédié va les faire perdre. Parce que même si au final, le président Bédié n'est pas candidat, qui désigne un candidat 6 mois ou 4 mois avant l'élection, quelle campagne il va faire véritablement? Il ne pourra pas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui doit faire campagne en 2025, il doit être en capacité d'être sur le terrain. Commencer à se faire connaître.
Il doit être visible.
Il doit être visible. Se faire connaître et des structures de base du PDCI et des autres Ivoiriens. Donc, on voit bien que la stratégie du président Bédié qui dit oh, ok, bon, moi, je n'ai pas de problème, je vais. On me dit qu'on me demande d'être président. Le candidat unique au Congrès, il sera reconduit, puisqu'il est candidat unique. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? S'il faut attendre la convention en 2025, il est clair que le PDCI va perdre ses élections. Et ces cadres-là n'ont pas envie. N'oubliez pas que le PDCI n'est plus au pouvoir, même si Fleur a le pouvoir, malgré l'avoir quitté. Mais c'est depuis 1999. 24 ans que le PDCI n'est pas au pouvoir. Mais ces gens qui s'en vont, ils n'ont pas 18 ans. Ils ont entre 60 et 70 ans. Ils se disent, mais écoutez, si c'est pour aller perdre encore en 2025, ça veut dire qu'on n'aura pas d'avenir jusqu'en 2030. Bon, ben, mieux vaut se rapprocher de nos cousins du RHDP avec qui on était ensemble pour pouvoir finir une bonne retraite. C'est aussi simple que ça.
Non, bientôt. Non, no comment.
Bien, vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité commentée cette semaine par JMK Oussou, directeur général et directeur de publication du quotidien Dernière Heure Monde et membre de la cellule de communication du PDCI. Et en face de lui, Guillaume Bato, secrétaire général adjoint du FPI chargé de la communication et du marketing politique et directeur des rédactions du quotidien Notre Voix. Messieurs, je vous propose de nous intéresser à présent au procès en appel de 12 proches de Guillaume Soro. Condamné en première instance en juin 2021 à diverses peines, leur procès en appel a effectivement démarré jeudi dernier avec les débats de fond devant la cour d'appel d'Abidjan Plateau. Voici le compte rendu d'audience pour cette première journée. Il est signé Francis Cassis.
C'est à 14h38, revenu d'une suspension d'audience, que le président de la chambre criminelle a ordonné l'ouverture des débats sur le fond, après s'être prononcé pour le rejet de toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense. En effet, pour ces derniers, il fallait repousser la dite ouverture des débats sur le fond, arguant d'une inconstitutionnalité de la décision du juge de première instance, en ce sens qu'elle violerait une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur cette affaire des Prosoro. Et les débats sur le fond ont commencé avec l'interrogatoire du premier accusé appelé à la barre, Jean-Baptiste Kassi Kwame, un commandant de l'armée ivoirienne à l'époque des faits. Ensuite, celui de Kone Arduma, ancien aide de camp de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Après l'interrogatoire de ces deux accusés par la Cour, l'avocat général, les avocats de la partie civile et ceux de la défense, le juge a mis fin à l'audience de ce jour à 16h42. Rappelons que ces 12 proches de Guillaume Soro ont déjà été condamnés en juin 2021 à diverses peines pour complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État, ainsi que pour diffusion et publication de fausses nouvelles jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement. L'audience reprendra demain, vendredi 3 février, a indiqué le juge Francis Cassis depuis le palais de justice du Plateau, Abidjan, pour Radio de la Paix.
Guillaume Bateau, que doit-on attendre de ce procès en appel des partisans de Guillaume Soro?
Moi, j'espère que ce procès va se terminer rapidement et que le président de la République va prendre une décision de grâce ou d'amnistie pour qu'on puisse tourner la page de tous ces événements malheureux. Vous savez, notre pays aspire aujourd'hui à l'unité, à la réconciliation, au rassemblement de tous ses fils. Et c'est vrai qu'il y a eu des épisodes douloureux. Je crois qu'il faut que nous donnions les moyens de les dépasser aujourd'hui. On attend, on a connu les peines qui ont été décidées en première instance. J'espère qu'au niveau en appel, soit que ces peines vont être réduites pour faciliter la tâche au chef de l'État pour une mesure de clémence. Mmh. Parce que n'oubliez pas que tant qu'on a encore des pères de famille, des leaders d'opinion en prison, c'est comme une partie de nous-mêmes qui est enfermée. Et il faut espérer, en tout cas c'est le vœu cher que j'ai, que toutes ces affaires se terminent rapidement et que tous les Ivoiriens se retrouvent pour construire ce beau pays que Dieu nous a donné.
Mmh. Jemka Oussou, je rappelle que pour cette affaire, la Côte d'Ivoire a eu maille à partir avec la Cour africaine des droits de l'homme qui avait demandé la libération de Souleymane Camarate et d'Issoul Toussoul et exigé aussi de sursoir à toute action pour avoir été saisi pour une question de l'unité, de nullité de toute la poursuite. Et c'est important de relever que la Côte d'Ivoire aussi avait décidé en avril 2020 de retirer sa déclaration de compétence à la Cour. Que pensez-vous donc de ce bras de fer qui manifestement continue de se jouer via les avocats des accusés lors de ce procès en appel?
Bon, moi, il y a deux choses. La première, c'est la préférence nationale. Ça veut dire que quand une situation se pose, généralement, on préfère nationaliser cette affaire-là. La deuxième, que moi je retiens, c'est la vacuité de ces fameuses institutions régionales, sous-régionales, voilà. L'UIA, la KDP, la Cour de justice de la CDAO, dont les décisions sont prises, mais dont l'applicabilité se heurte parfois à la souveraineté nationale des États composants. Donc ça, c'est un problème dont il va falloir vraiment se pencher là-dessus. Parce que à quoi ça sert de mettre tous ces cours-là en place, de payer gracieusement tous ces juges qui sont là-bas, qui, quand ils prennent des décisions, on n'arrive pas à les appliquer à des niveaux simplement national. Ça pose déjà un problème. Mais moi, je rejoins ce que mon frère Bateau a dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on lève tous ces pesanteurs. Ces gens sont allés en prison pour une simple raison. Ils sont proches de Guillaume Soro. Tout ce qu'on va raconter par la suite, excusez-moi, vraiment, ça relève d'autres choses. Ils sont proches de Guillaume Soro. Guillaume Soro est en rupture de ban avec son père, le président Ouattara. Le président Ouattara a voulu donner une correction à son fils. Il n'est pas là. Ses proches ont payé. Mais c'est une affaire qui traîne depuis 2019, s'il vous plaît. Depuis 2019, avec le retour manqué de Guillaume Soro le 22 décembre 2019, ils sont en prison, ils sont jugés. Guillaume Soro lui-même a pris une condamnation à perpétuité. Mais tout ça, ça nous mène à quoi ? De mettre Soultoussoul en prison. Ça nous mène à quoi de mettre le commandant Cassé en prison? Je vous rappelle que le commandant Jean-Baptiste Cassé, Kwame, faisait partie de la délégation du MPCI aux négociations inter-ivoiriennes de Lomé en 2002, juste après la guerre. C'est un vieux de la vieille. Ça sert à quoi de le mettre en prison? Le pauvre connaît arduement, dont la seule erreur ou la seule faute professionnelle, c'est d'être l'aide de camp de Guillaume Soro. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que je pense, comme l'a dit Guillaume, moi j'ai fait un plaidoyer. Le président Ouattara, il peut prendre une décision tout de suite pour dire, bon, on laisse tomber tout ça, je passe l'éponge. Dites à Guillaume, mais attendez, le président Gbagbo est rentré. Charles Blé Goudé, considéré comme le shaitan, pour parler comme certains, est rentré. Pourquoi Guillaume Soro ne rentrerait pas? Pourquoi? De quoi a-t-on peur? Oui, il est sulfureux, mais on ne va pas rester comme ça dans les contradictions, dans les adversités, jusqu'à quand? Donc, si nous voulons aller tranquillement vers des horizons nouveaux, il va falloir que le président lui-même, la main de fer qu'il a dans le gant de velours, qu'il diminue un peu le fer, que le vélo prenne un peu l'avant, qu'on libère ces gens-là. Et puis bon, quitte à les surveiller. Voilà, c'est vraiment le plaidoyer que j'ai fait. Parce que quelle que soit l'issue de ce procès, que leur condamnation soit confirmée, que leur condamnation soit cassée, c'est toujours l'image de la Côte d'Ivoire qui se retrouve sur la sellette internationale d'une façon ou d'une autre. Or, on a beaucoup de défis intérieurs à surmonter que de rester dans ces, excusez-moi, ces petits procès des salons. Voilà, c'est le plaidoyer que j'ai fait.
Oui, bon, moi, je ne dirais pas, comme JMK, que leur seul tort, c'est d'être des proches de Guillaume. Je pense que y a d'autres proches de Guillaume qui sont encore en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Mais je veux dire que dans ce pays, il faut que chacun aussi prenne sa responsabilité. Je pense que les amis de Guillaume doivent avoir une démarche conciliante. JMK, il y a quand même des faits qui sont reprochés à ces gens. Il y a des faits. La justice... Il y a eu un premier procès que j'ai suivi. Et il y a des faits qui sont reprochés. Je dis que malgré ces fautes qui ont été sanctionnées en première instance, il faut que nous tous, peut-être à la place de Guillaume, qui n'a pas encore choisi ce chemin, nous puissions faire amende honorable. Je crois que c'est important. Et c'est le conseil que je donne à Guillaume et à ses amis. On ne peut pas rester éternellement dans une posture de belligérance. Surtout avec quelqu'un avec qui on a marché pendant longtemps. Vous voyez, la démarche du président Afiou, c'est ça. On a pu avoir des désaccords, parfois même profonds. Mais après, il faut avoir l'élégance de se lever au-delà de ces désaccords pour voir l'intérêt de notre pays. Il n'est pas encore trop tard que Guillaume et ses amis entreprennent des démarches courageuses. Cela ne va rien leur enlever. Bien au contraire, cela va les grandir. Parce qu'aujourd'hui, mon ami Soultoussoul, qui moisit en prison depuis de longues années, il a une famille, il a ses enfants, tous ces personnages qu'on cite. Il faut penser aussi à leur famille. Et quand on a un leader, son rôle, ce n'est pas d'infliger la souffrance à ceux qui vous font confiance. Bien au contraire. Eux, aujourd'hui, malheureusement, ils sont en prison. Mais c'est à Guillaume de prendre des initiatives en pensant à eux. En se disant, écoutez, ce sont mes compagnons qui sont aujourd'hui en difficulté. J'ai la responsabilité de faire en sorte qu'ils retrouvent leur famille. Mmh. Et entreprendre des démarches responsables, conciliants vis-à-vis du président Ouattara, qui, je le répète, n'en déplaise à pour utiliser un terme que le président Bédi aime bien, au négateur patenté des évidences, n'en déplaise à ces gens-là. Le président Ouattara a fait suffisamment preuve d'ouverture. Ces dernières années, même si au début de son mandat, là, ça a été un peu dur, mais on voit bien qu'au fur et à mesure, il fait preuve d'ouverture. Mmh. Il faut saisir cette opportunité pour qu'on puisse solder tous les comptes du passé et offrir aux générations qui viennent un pays apaisé, un pays où le débat politique, la concurrence politique se fait dans un environnement sain, fraternel. Mmh.
Bien, revenons à présent sur la nouvelle hausse survenue sur le prix du litre du carburant Super Samplon. Une augmentation de 40 francs, passant ainsi de 775 à 815 francs CFA depuis le 1er février dernier. Une décision qui suscite colère et impuissance auprès de certains transporteurs, clients et particuliers, comme l'indique ce reportage de Francis Cassie, qui s'est rendu dans une station-service et une gare routière d'Abidjan.
Dans une des stations-service de la Riviera 3, ce mercredi, nous rencontrons des particuliers allés prendre de l'essence, désolés de cette hausse du prix du litre du Super Samplon.
Je ne savais pas quoi en fait. Du jour au lendemain, on vient, on dit le prix va augmenter. Bon, on n'y peut rien quoi. Donc on fait comme on n'a pas le choix. Ça, tu ne peux pas aller au travail. Bon, voilà.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous roulez avec quel type de carburant?
Nous roulons avec le Samplon. L'essence, aujourd'hui, premier, ça a augmenté. Donc vraiment, ça nous fatigue. C'est cher. Nous sommes à 815. Vraiment, c'est beaucoup. Que l'État essaie d'amortir un peu le choc pour nous. Peut-être qu'ils peuvent subventionner une partie.
Côté transporteur aussi, on est peiné face à cette augmentation.
Ça fait de 9 kilos. Bon, à grande surprise, on a appris que j'ai augmenté le carburant, le super. Ça passe à 815 francs. Donc, vraiment, nous ne sommes pas d'accord.
Mais vous roulez au gasoil, non? Vous les transportez?
Non, moi, je roule le super.
Oui, je suis un chauffeur.
Mais c'est seulement 40 francs qu'on a mis dessus.
40 francs, ça fait beaucoup. Quand on va augmenter le transport, ça ne va pas arranger aussi les clients.
Oui, ce possible effet domino sur les prix du transport est redouté par les clients.
Oui, quand même. Maintenant, on paye 300. Peut-être qu'avec l'augmentation, là, ça va arriver à 350, 400. Quand c'est comme ça, nous, les étudiants, comme ça ne nous arrange pas.
Ah, vous êtes étudiante?
Oui, je suis étudiante. Parce que nos parents ne vont pas augmenter notre argent parti à l'école. C'est nous, on va devoir se démêler pour diminuer notre argent pour manger, pour pouvoir payer le transport. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bon.
Rappelons que le prix du litre d'essence Super Samplon a connu une hausse en octobre 2022, passant de 735 à 775 francs CFA, soit une augmentation aussi de 40 francs CFA.
Alors, lors du dernier Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, est monté au créneau pour justifier cette augmentation. Avez-vous été convaincu par ces arguments qui, entre autres, ont été basés sur la maîtrise de l'inflation en Côte d'Ivoire qui tourne autour de 5-6% quand d'autres pays tutoient les 20%?
Bon, vous savez, le gouvernement est dans son bon droit d'expliquer parce qu'il a la responsabilité d'expliquer. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que depuis quelques années déjà, chaque mois, il y a un alignement du prix du carburant. Donc chaque mois, la Direction générale des hydrocarbures publie le prix pour le mois qui vient. Mmh. Bon. Votre reporter l'a dit, ce qu'on constate malheureusement, c'est que depuis ces derniers mois, la tendance est à la hausse. Il est arrivé un moment où parfois ça baissait. Mais depuis vraiment 10 mois, 1 an, on est à la hausse. Quel que soit ce que le gouvernement va expliquer, il est clair que c'est difficile pour les populations. Et quand on voit aussi l'inflation dans le monde, on regarde gauche à droite, on sait que la situation économique est un peu difficile un peu partout. Mais un de ceux que votre collègue a interrogé a souhaité que le gouvernement fasse encore des efforts. Je sais que le ministre a dit que le gouvernement fait des efforts à subventionner, mais il faut peut-être que le gouvernement fasse encore d'autres efforts pour vraiment contenir. Parce que malheureusement, cette hausse, si elle se maintient sur la durée, va entraîner de facto l'augmentation du prix du transport, l'augmentation du prix des denrées de première nécessité, et ça va être une spirale vraiment difficile à maîtriser. Parce que malheureusement, quand le prix baisse, les gens ne reviennent plus au prix antérieur. Ils restent au prix qui était plus haut. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, il faut seulement peut-être demander au gouvernement de faire encore plus d'efforts pour vraiment contenir cette hausse-là. Parce que effectivement le carburant est tutoyé, il est 1000 francs. Et ça va être compliqué.
J'aime Kaoussou. On savait que le gouvernement, pour justifier les hausses, évoquait le prix du cours du baril à l'international. Mais le cours du baril est en train de baisser depuis...
Il est même revenu à la normale.
Voilà, depuis au moins 2-3 mois. Voilà. Pourquoi est-ce que, pendant que le prix du baril baisse...
Je pense que celui qui regarde bien le tableau de bord doit comprendre depuis peut-être 2 ou 3 mois qu'on arriverait à ce prix-là. Et ce prix, il n'est pas nouveau. Voilà. Donc il ne faudrait pas faire de cette augmentation de 40 francs-là comme si c'était le dernier mauvais acte que le président Ouattara ou la gouvernante Ouattara a produit pour lequel on va lui jeter toutes les pierres. Qu'est-ce qui vous dit qu'à la fin du mois de février, début mars, le prochain tableau de bord qu'on va nous envoyer ne nous ramènerait pas à une réduction jusqu'à 10 francs de moins, 20 francs de moins? Rien, on n'en sait rien. Donc moi, je suis un peu prudent dans ce qui est cyclique de faire trop de commentaires. Parce que quand ça baisse, je ne trouve personne qui rend hommage au gouvernement. Mais quand ça monte, je trouve tout le monde qui parle. Tout à l'heure, j'ai écouté dans le reportage, je
fais des voix. Toi qui es journaliste, ouais. Le train qui arrive à l'heure.
Bien sûr.
Ah oui, j'ai écouté. Quand ça baisse, tout le monde est content.
Là où moi, les augmentations peuvent me préoccuper et vont me préoccuper, c'est quand ces augmentations concernent le carburant qui est utilisé le plus dans le domaine du transport. J'ai écouté un chauffeur de Warora tout à l'heure qui disait qu'il roulait un Warora au super. Franchement, bon, je ne dis pas que je doute, mais la plupart de tous les Warora d'Abidjan, quand ce n'est pas au gasoil, c'est au gaz. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous mystifier.
Oui, mais JMK, aujourd'hui, avec l'ubérisation du transport, les véhicules communément appelés les Yango,
mais les Yango
roulent
pas,
tous au super.
Les Yango savent dans quel projet économique ils sont. Donc, ils savent dans quoi ils sont. Voilà. Moi, je ne vais pas aller défendre le cas des Yango parce que quand ils font leurs bénéfices, là-bas, ils ne m'associent pas. Non. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont.
Oui, mais aujourd'hui les Abidjanais se déplacent beaucoup plus.
L'augmentation n'est pas bonne. Elle est de 40 francs. Je rappelle que nous, qui roulons au super, Pour moi qui fais régulièrement le trajet Abidjan-Bouaké, c'est une augmentation pratiquement de 7 à 8 000 que je vais mettre sur le carburant que je paye. OK ? Donc moi, je subis.
Toi, tu es un directeur général ?
Bon, enfin. 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 Donc, c'est, moi, ce que je plaide, c'est que la guerre en Ukraine laisse vraiment beaucoup de traces. Il faut que, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, le gouvernement continue de serrer le vis pour que les augmentations ne soient pas aussi difficiles à supporter. Comme je l'ai dit, pour moi qui fais régulièrement le trajet au super Abidjan-Bouaké, qui suis pratiquement entre 100 et 150 litres en aller et retour, je suis presque à 7 000, 8 000 d'augmentation. Sans compter que j'ai un péage en plus, hein, sur le péage aller, le péage et retour, j'ai deux péages en plus à payer.
Ça va être de plus en plus difficile. Maintenant,
voilà.
Avec le péage de Tébissou.
Voilà, le péage de Tébissou. Je suis à 3500 en aller, 3500 en retour, ça fait 7000. C'est-à-dire que pour un voyage que je fais au village, parce que je me dis que je dois y aller à chaque fois, je suis à 14000 de faux frais. Ça aussi, c'est difficile à transporter. Donc, je pense que il faut qu'on aide à ce que l'inflation des prix au niveau du carburant n'ait pas une incidence sur l'inflation généralisée des prix. Parce que quand les transporteurs vont augmenter les tarifs de transport, absolument les prix des denrées sur nos marchés vont connaître aussi une envolée. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Donc, on appelle le gouvernement à beaucoup de serrer encore le vis. Bon, le ministre va encore se plaindre, mais c'est tout ce qu'on peut. C'est un plaidoyer que nous faisons.
Mmh. Voilà. Alors, il y a une organisation de consommateurs qui a demandé au gouvernement de faire un peu le service après-vente en contrôlant au niveau des transports s'il n'y a pas de répercussions. Bien, nous allons allègrement vers la fin de cette émission, mais je voudrais que vous commentiez brièvement, c'est des actualités, mais cette fois sans illustration sonore. Il s'agit tout d'abord du dernier rapport de Transparency International qui voit la Côte d'Ivoire améliorer ses performances dans la lutte contre la corruption. Elle gagne 6 places et se classe 99e sur 180 pays. Est-ce qu'on peut dire que la lutte et les différents instruments mis en place par le gouvernement sont en train de payer justement ?
Oui, déjà, gagner 6 places, il faut s'en féliciter. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Voilà, parce que 99 sur 180, on est au milieu du tableau. Dans un championnat, bon...
On joue le maintien.
Malheureusement. Mais je pense qu'il y a eu des efforts qui se font, qui sont visibles. Je vois que le ministre Ruby Ballot, il est très actif. Il essaie de vraiment donner de la voix pour... Mais je crois que l'espoir est permis. Et le choix, l'option de la digitalisation va faire en sorte qu'on va cerner un certain nombre de choses. Mais en même temps, il faut que le gouvernement continue. Il faut que la sensibilisation, l'éducation... J'ai vu qu'il y a un projet d'introduire des sujets de lutte contre la corruption dans le curriculum des élèves et étudiants. C'est une bonne chose. Parce que tout ça doit s'apprendre aussi, y compris dans les familles, c'est vrai, mais à l'école. Il faut que la société nouvelle à laquelle nous aspirons, qui doit être une société de méritocratie, de compétence, de transparence, ça prend déjà dès le bas âge. Je crois qu'avec cela, on va, comme disent les chrétiens, on va gagner des âmes à la transparence. Donc il faut se féliciter de ce progrès, même s'il est, j'allais dire, pas mitigé, c'est pas le mot, je veux dire, c'est pas très important, c'est déjà bon. Il faut encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts, encourager toutes les institutions qui sont engagées dans cette dynamique à poursuivre leurs efforts pour que notre pays peut-être passe la barre des classements de 50 et être au-delà des 50 meilleurs dans le monde. Ce serait déjà une bonne chose.
Jim, commentaire rapide.
Comme on le disait, six places, c'est bon à prendre. On est en milieu des tableaux. Mais moi, je rappelle ce que le ministre Roby Ballot a dit. La corruption fait perdre encore à la Côte d'Ivoire entre 60 et 80 milliards par an. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Transparency, le classement est bien, mais sur le terrain concrètement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Voilà.
Alors, à compter du 1er mars 2023, le permis à points va entrer en vigueur en Côte d'Ivoire et déjà certains transporteurs, quoique ne le contestant pas, plaident pour qu'on leur laisse le temps de maîtriser tous les contours de cette réforme. Certains parlent même de 3 ans avant son entrée en vigueur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bon.
Avec le nombre d'accidents déjà qu'on constate.
Sans partager forcément le point de vue, je pense effectivement que la réforme a bien d'être expliquée. Parce qu'un de nos problèmes en Côte d'Ivoire, c'est le manque d'explication. préalable à la mise en route des réformes, quelle que soit la qualité de la réforme, si vous ne l'expliquez pas, si vous n'associez pas les acteurs, même dans la conception du projet, si vous ne leur donnez pas le temps de le domestiquer, il va poser problème. Mais il est clair que les accidents sont intolérables. Les accidents sont intolérables. Les Ivoiriens, parfois, je suis désolé de le dire, font preuve d'une inconscience incompréhensible. Vous voyez parfois des gens d'un certain âge faire des manœuvres sur la route. Parfois, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Et ce sont des familles qui sont tout. Regardez le dernier accident à Yamoussoukro. C'est la plus bêtise. Vous voyez, les familles perdent des gens. Vraiment, c'est... Et je pense que je comprends le gouvernement qui veut y aller vite. Mm-hmm. Parce que vraiment, c'est insupportable. Vous vous levez un matin, vous avez un proche qui vous a quitté pour... Il est mort. Par la faute d'un chauffeur inconscient. Par la faute d'une compagnie de transport qui ne répare pas ses voitures. Et on l'a dit, près de 85% des accidents sont dus à des erreurs humaines. C'est trop. Mm-hmm. C'est trop. Donc vraiment, ils ont peut-être raison de demander... Un petit délai, mais 3 ans, c'est trop.
C'est trop.
Il faut y aller. Il faut peut-être intensifier la communication. Je crois que la semaine de la sécurité routière a commencé aujourd'hui.
Tout à fait.
Il faut le faire. Il faut intensifier les moyens de communication. Il faut déployer les... Mais pour que le plus tôt serait le mieux.
J'aime Kaoussou.
Oui, ben, moi, même moi à qui vous parlez, je ne sais pas ce que le permis à point est. Je ne sais pas ce que c'est. On obtient les points comment? On voulait les
moi, j'ai reçu un message me disant que mon permis a 12 points.
À 12 points.
C'est tout.
Bon, les 12 points, je les gagne comment? Je les perds comment? Quand je ne fais pas d'accident, est-ce que c'est bonifié? Rien. Il n'y a pas d'explication. Et comme Guillaume l'a dit, tant qu'il n'y a pas d'explication, ce n'est pas un milieu aussi fragile comme le milieu des chauffeurs de Bakao où le niveau intellectuel n'est pas très élevé. Ce n'est pas là-bas, ils vont comprendre. Donc, je pense qu'on doit voir tout ça parce qu'on vous dit que vous êtes crédité des 12 points. Mais est-ce que ça veut dire que le permis que j'ai payé ultérieurement, qui est avec moi, que j'ai acquis ultérieurement, ce permis-là est toujours valable, ou est-ce qu'on va envoyer un nouveau permis? Il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. Voilà. Maintenant, en répression aux accidents, oui, je suis d'accord. Mais encore que... ça n'explique pas tout. Voilà. Il faut vulgariser le permis à point d'abord.
Il faut expliquer. Il faut que le gouvernement accepte d'investir dans la communication. Voilà. Et ça aussi... Bon, je parle aussi en tant que... responsable de médias. Mais écoutez, on essaie de faire nos efforts, mais parfois on ne sent pas l'accompagnement du gouvernement.
On est seul d'ailleurs.
Sur ces questions, il faut une grande campagne de communication et associer les médias, mais mettre les moyens. J'ai vu quelque part qu'on veut mettre des affiches. Mais j'aime qu'elle a dit, c'est pas tout le monde qui sait lire les affiches. Nous sommes à une émission. Tu fais bien de mettre ce sujet à l'ordre du jour, mais la radio de la paix doit être mise en mission pour sensibiliser, comme tous les autres médias. Je ne comprends pas souvent cette réticence du gouvernement à vouloir, comment on appelle ça, liquider ces questions aussi importantes en termes de communication institutionnelle et gouvernementale. Il faut associer les médias. On voit que la publicité elle se fait rare. Mais sur ces questions-là, il faut prévoir des budgets conséquents pour accompagner les médias, pour vulgariser ces questions. Mais ils sont... Bon, je suis désolé, mais c'est pas ça.
Bien. On va terminer sur cette note d'espoir, hein, appelant à vraiment sensibiliser et communiquer sur la question des permis à points et au-delà de tout ce qui concerne la sécurité routière. C'est la fin donc de ce numéro de Regard croisé sur l'actualité qui recevait JMK Oussou, directeur général et directeur de publication du quotidien Dernière Heure Monde et membre de la cellule de communication du PDCI RDA, et Guillaume Bateau, secrétaire général adjoint du FPI, chargé de la communication et du marketing politique et directeur des rédactions du quotidien Notre Voix. J'ai bénéficié de la réalisation technique d'Antoine Kouassi. Merci de votre fidélité. De votre fidélité, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine à Yamoussoukro où nous enregistrerons un numéro spécial de Regard croisé sur l'actualité consacré à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Merci.